إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on continue là où on s'est arrêté. Donc il dit, رحمه الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Donc ici dans le kitab al-Tawhid il ramène la parole de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه. Et Sheikh al-Fawzan dit Ibn Mas'ud هو Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hudhali صاحبي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32. Donc il dit Abdallah ibn Mas'ud, c'est Abdallah ibn Mas'ud, il a cité tout son nom, qui fait, il fait partie des premiers musulmans et des grands savants des Sahaba, et il s'est beaucoup accroché au prophète, c'est-à-dire il a beaucoup accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort en 32, c'est-à-dire 32 de l'Hégire. Donc ici il a dit ibn Mas'ud, celui qui veut voir le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lequel il y a son sceau, qu'il lise la parole d'Allah, dit, et il a cité les versets de Surat al-An'am qu'on avait lu, qui sont dans le Kitab Tawhid juste avant, qui commence par le Tawhid, c'est-à-dire où Allah il dit, dans la traduction, dit, venez, je vais vous lire ce que votre Seigneur vous a interdit, et après il dit la première chose, de ne rien lui associer, c'est-à-dire il vous interdit de lui associer quoi que ce soit. Donc tous ces versets-là dans lesquels il y a 10 ordres, il y a le fait de ne pas tuer, etc., etc., l'obéissance aux parents, etc. Ibn Mas'ud, il a dit, si quelqu'un voulait voir le testament du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait qu'à, sur lequel il y a son sceau, il faudrait juste qu'il lise ces versets. Donc Sheikh, il dit, Al-wasiyya hiya al-amr al-mu'akkad al-muqarrar. Donc Al-wasiyya en arabe, que j'ai traduit par testament, c'est quelque chose d'affirmé et d'insisté. C'est ça, Al-wasiyya. Comme un ordre. خاتمه الخاتم بفتح التاء الخاتم بفتح التاء وكسرها حلقة ذات قص من غيرها وختمت على الكتاب بمعنى طبعت. Ici il explique le khatam, c'est le fait de mettre un sceau sur un livre, c'est ça le khatam. المعنى الإجمالي للأثر. Donc la signification globale du athar. Pourquoi il a dit l'athar et dans les autres il dit le hadith? Hein? Voilà, parce que ça c'est la parole d'un sahabi. Quand c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit al-hadith. Et quand c'est la parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit un athar. Et en fait, ça c'est pas quelque chose d'absolu. Il y a des ulama qui disent athar pour les deux, pour les hadiths et les athar. Il y a des ulama qui disent hadith pour les hadiths et les athar. Et il y a aussi des éléments qui disent hadith pour ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'athar pour ce qui vient des compagnons des tabi'in. Et à l'époque des salafs, donc ils employaient beaucoup le mot hadith pour désigner les deux. C'est pour ça que vous lisez parfois, par exemple, l'imam Ahmed, il connaissait 1 million de hadiths. Ça ne voulait pas dire qu'il connaissait 1 million de paroles différentes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il connaissait 1 million de chaînes de transmission qui mènent soit à une parole du prophète, ou une parole d'un compagnon ou d'un tabi'i. Donc ça fait beaucoup. Et si une même parole, elle est rapportée avec 10 chemins différents, 10 chaînes de transmission, il la compte comme 10. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi, par exemple, l'imam al-Bukhari, il disait qu'il avait sélectionné son sahih à partir de 600 000 hadiths. Ça veut dire qu'il y a aussi les paroles des compagnons et des tabi'in. Aïkoum salam wa rahmatullah. Donc il dit, يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى ولم يوصي إلا بما لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به. Donc il dit, ابن مسعود رضي الله عنه, il a dit que si le prophète صلى الله عليه وسلم il avait laissé un ordre à sa mort comme un testament, il n'aurait pas recommandé si ce n'est ce qu'Allah a recommandé dans ses versets. Parce qu'à la fin de chaque verset, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Parce que les versets qu'on a cités dans Sourate Al-An'am, c'est trois versets. Et à la fin de chaque verset, Allah il dit, voilà ce qu'Allah vous ordonne. Et le verbe ordonner, c'est wassakum. C'est de là que s'appelle wasiyya, le testament, l'ordre. وَإِنَّمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ذَلِكَ لَمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله. Donc il a dit ici, Cheikh Al-Fawzan حفظه الله, il dit, ابن مسعود il a dit ça lorsque Abdullah ibn Abbas, il a dit, donc il a entendu que Abdullah ibn Abbas, donc le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit la grande perte là dont on souffre, c'est que le prophète, il ne nous a pas laissé un testament. Il ne nous a pas écrit un testament. Et Ibn Mas'ud, c'est comme s'il a répliqué à Ibn Abbas en disant, même si le prophète, il n'a pas laissé de testament, mais on a les versets du Coran qui sont clairs, qui sont les versets de Sourate Al-An'am. Et si le prophète il avait laissé un testament, il n'aurait rien laissé de plus que ce qu'il y a dans ces versets-là. Donc c'est-à-dire, il leur dit, il leur a rappelé que dans le Coran, il y avait ce qui leur suffisait, et qu'en fait, ils n'avaient pas besoin d'un testament, ils n'auraient pas eu besoin d'un testament. مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به. Donc quelle est l'occasion d'avoir mis cette parole d'Ibn Mas'ud dans ce chapitre? C'est de montrer que comme ce qu'il y a dans ces versets, et à la tête donc de ces versets, c'est le tawhid. Parce que la première chose qu'il a dans les versets, c'est l'interdiction d'associer Allah. Comme c'est al-wasiyya venant d'Allah, donc un ordre venant d'Allah, c'est aussi une wasiyya venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Ibn Mas'ud il a montré que si le prophète il avait laissé une wasiyya, ça aurait été celle-là. La même que celle qu'Allah nous a citée dans le Coran. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commande que ce qu'Allah a commandé. Ma yustafadu min qawli ibn Mas'ud ahamiyyatu hadhihi al-wasaya al-ashr. Que profite-t-on donc de la parole d'Ibn Mas'ud, l'importance de ces 10 commandements qui sont cités dans les 3 versets de Sourate Al-An'am. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به فكل وصية لله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. Que le prophète il commande ce qu'Allah a commandé. Donc toute wasiyya, c'est-à-dire tout commandement qui vient d'Allah, c'est aussi un commandement, on peut dire que c'est aussi un commandement du prophète صلى الله عليه وسلم. عمق علم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله. Donc la profondeur de la science des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la précision de leur compréhension du Coran. Et ça, mine de rien, quand on lit ça, ça nous paraît évident. Ibn Mas'ud il a dit ça, donc ça montre sa compréhension. Mais ça a son importance, ce qu'il dit ici, Cheikh Al-Fawzan. C'est-à-dire qu'à travers cette parole d'Ibn Mas'ud, on voit la profondeur de la science qu'avaient les compagnons. Et ça, dans quelle erreur ça ne nous fait pas tomber? C'est l'erreur déjà de la spéculation, qui disent مذهب السلف أسلم ومذهب السلف أعلم وأحكم. C'est-à-dire مذهب السلف, ils disent مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. C'est-à-dire ils disent la voix des salafs, c'est-à-dire des anciens, parmi les compagnons, les tabi'in et les imams de la umma, la communauté, c'est plus sûr, aslam, c'est plus sain, mais la voix des khalafs, c'est-à-dire ceux qui sont venus après, a'lam wa ahkam, c'est plus sage et c'est plus scientifique, c'est plus savant. Mais ce que ça sous-entend, ce que ça implique, c'est que en fait, chez eux, madhhab ou salaf, donc ça, j'ai déjà expliqué ça fort fond, mais c'est pas grave, c'est toujours bon de l'entendre, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc pour eux, la voie des salafs, ce qu'ils appellent eux la voie des salafs, qui n'est pas en vérité la voie des salafs, dans ce cas, ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, c'est de croire au texte coranique, au texte prophétique, sans le comprendre. Donc ils disent que les compagnons, comment ils croyaient à des versets comme le verset où Allah dit, Bal yadahu mabsoutatayn, les deux mains d'Allah sont ouvertes. Ils disent, les sahaba, ils disaient, les deux mains d'Allah sont ouvertes. J'y crois. Mais qu'est-ce que ça veut dire les deux mains d'Allah? Je ne sais pas. On appelle ça at-tafwid, yufawwidu al-ma'na. Ça veut dire qu'ils rejettent la signification à Allah et ils la laissent à Allah. Pour eux, c'est ça, madhhab as-salaf. Donc ils disent, il est aslam, il est plus sûr. Tu es sûr de ne pas te tromper en faisant ça. Alors que déjà, celui qui fait ça, il se trompe. Parce que al-ma'na, il est connu. On connaît la signification des textes et même ceux qui parlent des attributs d'Allah. Ma'na al-yadayni ma'ruf. Qu'est-ce que ça veut dire demain? On le sait. Simplement le comment, c'est le kayf, ça on ne connaît pas. Donc on connaît la signification du verset, ça veut dire qu'Allah il a deux mains. On ne dit pas je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'Allah a deux mains. Mais le comment, quelle est la réalité des deux mains d'Allah et comment elles sont, ça je ne sais pas. C'est ça qu'on ne connaît pas. C'est ça qu'on renvoie. Mais la signification, on la connaît. Et le madhhab des khalaf, ça veut dire la voie de ceux qui ont succédé, pour eux elle est plus savante. Et c'est le fait de chercher à connaître cette signification que les sahabas n'ont pas cherché à comprendre. Et donc ils vont prendre les textes qui parlent des attributs d'Allah et les interpréter, et les détourner de leur sens. Ils vont dire par exemple, les mains d'Allah, ça veut dire la force d'Allah. Parce qu'on ne peut pas dire qu'Allah il a des mains. Parce que si on dit qu'Allah il a des mains, c'est qu'on a fait ressembler Allah à sa créature. Et ça c'est faux, c'est une fausse base. Parce que Allah lui-même qui s'est attribué les mains, il a dit aussi, Laysa ka mithlihi shay, rien ne lui ressemble. Donc Ahl Sunna, ils disent qu'Allah il a deux mains, mais qu'il ne ressemble pas à celle des créatures. Donc en fait, ils ont accusé le Coran de faire imaginer aux gens la ressemblance entre Allah et sa créature. Parce qu'ils disent que ce texte, si on le prend comme tel, il fait penser que Allah il ressemble à sa créature. Donc en vérité, c'est qui a fait ressembler Allah à sa créature dans l'histoire? C'est eux. Au fond d'eux, ils ont dit que ce texte implique la ressemblance entre Allah et sa créature, donc on le rejette. Pour le rejeter, on le détourne de son sens. On appelle ça ta'wil. En fait, ce n'est pas du ta'wil, c'est du tahrif. C'est détourner le sens des mots. Et donc, ils disent, c'est ça qui est a'lam ahkam. Donc, j'ai expliqué tout ça, mais pour résumer, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'en fait, les sahaba et les tabi'in, c'était des pauvres bédouins qui priaient toute la nuit, mais quand ils lisaient le Coran, il y a beaucoup de versets, ils ne savaient pas ce que ça veut dire. Ils n'ont pas approfondi. Et ceux qui sont venus après, eux, ils ont été plus loin, mashallah. Ils ont été plus loin que les sahaba et les tabi'in, et ils ont mieux compris qu'eux, et ils ont trouvé le ta'wil. Et ça, quand on connaît juste le hadith où le prophète a dit « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum »« Les meilleurs gens sont mon époque, ensuite ceux qui suivent, et ensuite ceux qui suivent », on comprend que c'est nul. Donc pourquoi? Donc c'est important ce qu'il dit ici, Cheikh. Il dit umqu ilmi sahaba, la profondeur de la science des sahaba. Donc si quelqu'un s'est mis ça dans la tête, il ne pourra pas tomber dans ce qu'ils disent al-Asha'ira, al-Mu'tazila, al-Maturidiya et Ahlul Kalam en général, qui sont les enfants de Al-Jahmiya. En fait, tous on peut les appeler Jahmiya. Wa an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qal kuntu radif an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar fa qala li ya Mu'adh أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذبا لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. Donc il dit ici, selon Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Huwa Mu'adh ibn Jabalin ibn Amrin ibn Awsin ibn Ka'b ibn Amr al-Khazraji al-Ansari, sahabiyun jalilun mashhurun min a'yani sahaba, wa kana mutabahiran fil ilmi wal ahkami wal Qur'an, shahida ghazwata badrin wa ma ba'daha, واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما. مات بالشام سنة 18 وله 38 عاما. Donc il dit, Mu'ath, c'est Mu'ath ibn Jabal, ibn Amr ibn Aws ibn Ka'b ibn Amr et Khazraji. Donc pourquoi il dit tout ça? C'est parce que chez les Arabes, à la base, il n'y a pas de nom de famille. Mais les Arabes, ils se connaissent avec ce qu'on appelle al-Nasab. Donc il dit un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et il finit par le nom de la tribu ou le nom de l'endroit d'où il vient. C'est-à-dire au départ, c'est les noms de tribu. Mais quand l'islam il s'est répandu aux noms arabes, les noms arabes, ils s'appelaient par le nom de... comme par exemple Al-Wasiti ou Al-Maqdisi, par le nom de la ville ou du pays d'où il vient. Donc il dit, c'est un compagnon connu parmi les compagnons, c'est-à-dire il est connu pour être parmi les meilleurs compagnons, et c'était quelqu'un mutabahiran, c'est-à-dire il était très approfondi dans la science, et le fiqh, et le Coran. Et il a assisté à la bataille de Badr, donc pourquoi il précise ça? C'est pour montrer sa valeur. Parce que auprès d'Ahl Sunnah wa Jama'a, les meilleurs sahaba, c'est les 10 qu'Allah a promis au paradis. Et ensuite, c'est ceux qui ont témoigné la bataille de Badr. Et ensuite, ceux qui ont témoigné de la bataille de Uhud. Donc, Mu'adh ibn Jabal, il fait partie des meilleurs sahaba. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est reparti de la Mecque après l'avoir conquise, il a laissé Mu'adh ibn Jabal comme dirigeant à la Mecque, après lui. Et après, il l'a envoyé au Yémen pour juger, pour apprendre aux gens la religion, juste avant de mourir. Juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure. Et il est né en l'an 18, et quel âge il avait? 38 ans. Hein? Il est mort en l'an 18, et il avait que 38 ans. Donc à 38 ans, il avait atteint ce rang d'imam, on peut dire. Avant, oui, bien sûr. Ouais. Al-Radif, huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri d-dabba. Donc ici, quand il a dit « Kuntu radif al-Nabi », j'étais radif du prophète. Radif, ça veut dire « c'est celui que tu portes avec toi sur un âne ou sur un cheval, derrière toi. » Aïkoum salam wa rahmatullah. « Atadri, yani ahal ta'rif, haqqullahi ma yastahiqquhu wa yaj'aluhu mutahattiman ala l'ibad. » Donc « haqqullah », c'est le droit d'Allah qui est obligatoire aux créatures. C'est-à-dire les créatures doivent remplir ce droit. Et en fait, si on lit dans Sahih al-Bukhari l'histoire complète du hadith, en fait, Mu'adh, il était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, il lui a dit, « Ya Mu'adh ibn Jabal », c'est-à-dire, « Oh Mu'adh », et Mu'adh, il lui répondait, « La Baika », c'est-à-dire, « Oui, je te réponds ». Et le prophète, il s'est tu. Et bien après, il lui a dit, « Ya Mu'adh », et il lui a dit, « La Baika », et il s'est tu. Et bien après, c'est-à-dire, ils ont été longtemps sur l'âme, en fait, il lui a dit, « Ya Mu'adh ». Et là seulement le prophète il lui a dit cette question. D'ailleurs j'ai pas traduit. Donc il dit selon Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il a dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne, lorsqu'il me dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures, sur ses serviteurs, et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Je dis, Allah et son messager savent mieux, sont plus savants. Il dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Je dis, ô messager d'Allah, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il dit, ne le fais pas, car il se reposerait là-dessus. Rapporté par Bukhari et Muslim. Haqqul ibadi ala Allahi ma katabahu ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsana. Donc ensuite, le droit des serviteurs sur Allah, c'est ce qu'Allah s'est prescrit à lui-même, par miséricorde pour les serviteurs. Donc il faut faire une différence entre haqqullah et haqqul ibad. Haqqullah, le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est un droit qu'implique le fait qu'Allah, c'est lui ton créateur, c'est lui qui te donne les bienfaits, c'est lui qui t'a éduqué, qui t'a fait grandir. Et c'est lui qui destine tout, c'est lui qui gère. Donc forcément, il a le droit à l'adoration, et c'est un droit obligatoire. Mais le droit que les serviteurs ils ont sur Allah, ça c'est pas le même droit obligatoire. Parce que les serviteurs ils peuvent rien obliger à Allah. Parce que Allah yaf'alu ma yurid, Allah il fait ce qu'il veut. Mais c'est un droit qu'Allah s'est imposé. Pour comprendre, c'est comme quand Allah dit dans le Coran, Kataba rabbukum ala nafsihi rahma. C'est-à-dire Allah s'est prescrit à lui-même la miséricorde. C'est-à-dire c'est Allah qui s'est obligé de remplir cette chose, c'est-à-dire de ne pas châtier celui qui n'associe rien. يتكل يعني يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة. Quand il lui a dit يتكل, j'ai peur qu'il se repose, c'est-à-dire qu'il se repose sur le fait qu'Allah ne châtie pas celui qui ne commet pas de shirk. Et qu'à partir de ça, il délaisse le fait de se concurrencer les uns les autres dans les bonnes actions. Parce que si tu dis aux gens, si tu t'associes rien à Allah, tu vois, il ne va pas te châtier. C'est pas qu'ils vont se reposer là-dessus avec une bonne compréhension. C'est-à-dire qu'ils vont mal le comprendre. Ils vont dire, bah, c'est bon, donc je peux ne rien faire. Et à partir de là, ils vont se reposer là-dessus. Et là, ça va les mener à leur perte. Donc c'est pour ça que le prophète, il lui a dit, ne dis pas ça aux gens. Et en fait, Mouad, il a dit ça avant de mourir. Takattuman, c'est-à-dire de peur de cacher une science que le prophète a révélée. Donc il l'a dit seulement avant de mourir. المعنى الإجمالي للحديث دوك لا سينيفيكاسيون جلوبال دو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله وفضله دوك لو بروفيت il a voulu montrer l'obligation du tawhid vis-à-vis des serviteurs et le mérite du tawhid فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم دوك il a enseigné ça sous forme de question pour que ça ait plus d'empreinte dans l'âme de celui qui apprend, c'est-à-dire dans la personne de Mu'ad ibn Jabal. Et encore pire, comme je vous ai expliqué, c'est qu'il lui a posé la question trois fois sans lui répondre. Donc ça fait qu'en fait, quand par exemple je te dis, si je dis à une personne qui ne connaît pas, est-ce que tu sais ce que c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Ou alors plutôt je lui dis, oh un tel, et il me répond oui, et je dis rien, il va cogiter ce qu'il va me dire. Et si à la fin, quand je vais lui dire ce que j'ai à lui dire, il va être bien concentré. C'est comme ça que le prophète, il a fait ça, sallam. فَلَمَّا بَيَّنَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ فَضَّ التَّوْحِيدِ إِسْتَأَذَنَهُ مُعَاذٌ أَنْ يُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّاسَ لِيَسْتَبْشِرُ Donc lorsque le prophète lui a montré le mérite du tawhid, Mu'adh a demandé la permission au prophète d'informer les gens pour qu'ils se réjouissent de cette bonne nouvelle. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الأعمال الصالحة. Donc le prophète il lui interdit de peur que les gens ils se reposent sur ça et qu'ils diminuent dans leurs bonnes actions. مناسبة الحديث للباب أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. Pourquoi il a mis ce hadith dans ce chapitre, c'est pour montrer le tafsir, c'est-à-dire l'explication du tawhid. Qu'est-ce que c'est le tawhid? C'est l'adoration d'Allah accompagnée du fait de ne pas lui associer quoi que ce soit. Et on pourrait rajouter aussi, ce hadith montre que c'est aussi le droit d'Allah. Donc regardez en fait tout ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, dans le verset « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِ » il montre que c'est le but de la création. Dans le verset « وَلَقَدْ بَعَثْنَا » il montre que c'est le but du message de chaque prophète. Et aussi que c'est la base du message de chaque prophète et la base de toutes les religions qui viennent des prophètes. Après, dans les autres versets, il a montré que c'est l'opposé du shirk. Et que l'adoration, elle est bonne que si elle n'est pas accompagnée du shirk. Et que ce qui s'oppose à l'adoration, c'est le shirk. Et aussi, on avait compris que l'adoration, le vrai tawhid, implique l'adoration. Et l'adoration, comme c'est des gestes, ça montre que le tawhid il est complet que si tu mets en application les ordres et tu évites les interdits. Et que la simple croyance seule, elle ne sert à rien. Donc c'est ça en fait, le premier chapitre, tout, il montre en fait qu'est-ce que c'est que le tawhid dont il va parler dans le livre. Et là il nous montre avec ce verset que c'est, dans le afar d'avant, il a montré que c'était l'ordre d'Allah comme un genre de testament. Et là dans ce hadith, il montre que c'est le droit d'Allah. ما يستفاد من الحديث كسك بروفيت دو حديث اولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار واردف عليه خلاف ما عليه اهل الكبر premièrement la modestie du prophète صلى الله عليه وسلم puisqu'il est monté sur un âne et en plus il a mis quelqu'un derrière lui avec contrairement à ce qu'ils font les orgueilleux c'est-à-dire que si tu vois George Bush passer en voiture je pense pas qu'il va s'arrêter pour te dire monte où est-ce que tu dois aller monte avec moi. C'est ça qu'il veut dire ici. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un chef d'État. Il avait à sa tête un peuple, sous son commandement un peuple. Et pourtant, il monte sur un âne. Et il fait monter un jeune sahabi, parce que Mouad il était jeune, il le fait monter derrière lui. Ça montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. Deuxièmement, on peut en profiter aussi le fait qu'il est licite de faire monter quelqu'un derrière toi sur un âne, à condition que la bête elle supporte ça. ثالثا التعليم بطريقة السؤال والجواب. Troisièmement, le fait d'enseigner par les questions-réponses, comme il a fait le prophète ici sallallahu alayhi wa sallam avec Mouad. Et ça, c'était l'habitude du prophète dans beaucoup de hadiths. Et parmi eux, ces hadiths, le hadith de Jibril, quand il est venu, il a posé des questions sur l'islam, sur l'iman, et le prophète y répondait. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Jibril qui est venu vous enseigner. Et comment il leur a enseigné? En posant des questions, en faisant un question-réponse. رابعا أن من سئل عما لا يعلم ينبغي له أن يقول الله أعلم. Donc quatrièmement, c'est que celui à qui on pose une question à propos de ce qu'il ne sait pas, il faut qu'il dise Allahu A'lam. C'est-à-dire Allah est plus savant. Et les ulama, ils ont l'habitude de dire Allahu A'lam nisful ilm. Ou alors la adri nisful ilm. Le fait de dire Allahu A'lam ou je sais pas, c'est la moitié de la science. Parce que l'autre moitié, c'est ce que tu sais. Donc la deuxième moitié, c'est ce que tu connais pas. Et qu'il rapporte une histoire de l'imam Malik comme quoi, il lui avait envoyé un peuple, des gens, il lui avait envoyé quelqu'un pour poser des questions. Et sur une trentaine de questions, il a répondu à moins de 5. Et l'homme, il lui a dit, bah, qu'est-ce que tu dis sur les autres questions? Il lui a dit, la adri, je sais pas. Il a dit, qu'est-ce que je vais dire à mon peuple? Il lui a dit, bah, tu diras que l'imam Malik, il sait pas. Rahimahullah.
Khamisan, ma'arifatu haqqillahi ala al-ibad, wa huwa an ya'buduhu wahdahu la sharika lah.
Cinquièmement, on connaît à partir de ce hadith le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et quel est ce droit? Donc c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Donc il l'adore avec la définition qu'on a vue. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est le fait de s'humilier avec un amour extrême et une crainte extrême, une vénération à Allah. Ce qui se manifeste dans quoi? En gros, ça se résume en quoi? Obéir à ses ordres et éviter ses interdits. Et donc ça se manifeste par des actes qu'Allah aime et agrée, et des paroles et des croyances, des actes du cœur et du corps.
سادسا أن من لم يجتنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة.
Donc sixièmement, c'est que celui qui ne s'écarte pas du polythéisme, alors il n'a pas ramené l'adoration d'Allah comme il se doit. Même si en apparence il l'adore. Donc ça montre aussi le danger de ce sujet qui est le tawhid.
سابعاً فضل التوحيد وفضل من تمسك به.
Septièmement, donc le mérite du tawhid et le mérite de celui qui s'y accroche. Parce qu'Allah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici, quel est le droit des serviteurs si ils pratiquent cette chose, ce tawhid? C'est qu'Allah, il ne les châtie pas. Et il faut faire attention quand il dit, أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Leur droit, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Ça ne veut pas dire que la personne, elle reste sans agir. Elle se contente de croire et de ne pas associer à Allah, et elle a droit qu'Allah ne lui associe pas, qu'Allah ne la châtie pas. Ça, c'est une mauvaise compréhension qui peut faire tomber la personne dans l'irja. Pourquoi? Parce que il a bien dit au départ, le droit d'Allah, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Et seulement à la fin, il a juste dit qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Mais celui qui ne lui associe rien, ça implique qu'il l'adore. C'est-à-dire qu'il l'adore et qu'il lui associe rien. Parce qu'il a dit dans le même hadith, le droit d'Allah, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Donc maintenant, si une personne, elle vient à croire et à se dire musulmane, ça veut dire elle dit l'attestation, et elle dit qu'elle croit à tout ce que le prophète il a ramené, mais elle ne met pas ça en application, ça veut dire ni elle fait ce qui est obligatoire, etc. Elle ne répond pas aux ordres. Est-ce qu'elle a ramené le droit d'Allah? Non, parce que le droit d'Allah, c'est pas seulement de croire. C'est an ya'budouhu. Et l'ibada, c'est quoi? C'est des actes et des paroles. Donc celui qui a aucune ibada, donc il n'est pas mouahid. C'est un mushrik ou un kafir, on peut l'appeler ça comme ça. Ça, c'est bi-ijma' al-sunnah. C'est-à-dire que celui qui croit seulement et qui se dit musulman, mais sans appliquer quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un acte dans toute sa vie,
Mais de toute façon, ça, Allah, je ne sais pas si ça existe, eh ben, ça ne serait pas une personne musulmane. Comme ils disent, musulman non pratiquant. Donc ça, c'est pour comprendre que musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Et celui qui dit, moi, je suis musulman non pratiquant, c'est-à-dire, il dit, c'est comme s'il dit, moi, je crois, je suis croyant, je crois à l'islam, mais je pratique pas. C'est comme s'il a testé la mécréance sur lui-même. Parce que la foi, c'est les actes. C'est la croyance et les actes. Donc c'est comme s'il disait, je crois, j'ai la aqida, mais j'adore pas Allah. Donc si tu n'adores pas Allah, tu n'as pas fait ce qu'il a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore. Ce n'est pas juste qu'il croit. Donc toi, tu es en train de témoigner sur toi-même que tu ne remplis pas le droit d'Allah. Donc pour vous montrer un peu le danger, quand on comprend ça, c'est facile après de faire da'wah à ceux qui nous disent, Khalé, la foi c'est dans le cœur, je suis musulman, mais je ne suis pas pratiquant. Ça viendra plus tard. Quand je serai marié. Donc ensuite il dit istihbab basharati al-muslimi bima yasurruhu. Donc c'est-à-dire il est préférable d'annoncer la bonne nouvelle aux musulmans parce qu'il le rend heureux. Parce que Mouad ici, quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il ne faut pas que j'annonce la bonne nouvelle? Le prophète il lui interdit spécialement ici parce que ça allait engendrer des mauvaises conséquences. Mais il ne lui a pas dit pourquoi tu veux donner une bonne nouvelle aux gens. Donc il l'a approuvé sur la base de sa demande, c'est-à-dire le fait de donner la bonne nouvelle aux gens. Donc le fait de simplement donner une bonne nouvelle à des musulmans pour les rendre heureux, ça c'est légiféré. Ashiran, jawazu kitman il-ilmi lil-maslaha. Donc dixièmement, comme il est licite de cacher une science, lil-maslaha, c'est-à-dire pour pas que ça entraîne un mal, pour un bien, c'est-à-dire. والفائدة الحادية عشر تأدب المتعلم مع معلمه. Donc le adab, c'est-à-dire la politesse que doit avoir celui qui apprend avec celui qui lui enseigne. C'est ce qu'on profite aussi du hadith. Parce que Mu'adh ibn Jabal, donc il a, quand par exemple le prophète lui pose une question, il ne sait pas, il lui dit Allahu a'lam. Après, avant de dire par exemple, est-ce que je peux informer les gens, il lui demande la permission. Donc tout ça, c'est un adab. Et même, par exemple, Amr ibn al-As, radiallahu anhu, il disait, je ne pourrais pas vous décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant c'était un sahabi, tellement parce que je le respectais, je n'osais pas le regarder en face. Même si ça, c'est vrai que c'est spécifique au prophète, mais de façon générale, les salafs, ils avaient l'adab envers l'enseignant. Par exemple, ça a été rapporté d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, comme quoi il tenait comment on appelle ça, le truc là, du cheval. La corde, les brides du cheval de Zayd ibn Thabit. Parce que Zayd ibn Thabit, c'était soit le plus savant ou un des plus savants des Sahaba. Et donc, il lui tenait sa bride. Et Zayd ibn Thabit, il disait, fais pas ça parce que tu es le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Abbas, il lui répondait, c'est comme ça qu'on nous a dit de nous comporter envers nos ulama. Et dans un autre hadith aussi, quand il est parti, Abdullah ibn Abbas tapait à la porte de Zayd ibn Thabit vers la salat al-dhahr, et Zayd ibn Thabit il n'a pas répondu. Ibn Abbas il s'est allongé dans la rue, et à tel point qu'il a été rempli de poussière. Et parce qu'il voulait lui demander un hadith. Et quand Zayd ibn Thabit il est sorti, il l'a vu comme ça, il lui a dit, fallait crier et je serais sorti. Parce que ça ne convient pas que le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'allonge comme ça par terre. Et il lui a dit, c'est comme ça qu'on nous a demandé d'agir avec le ulama. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Donc ensuite, deuxième chapitre, le mérite du tawhid et le fait que le tawhid efface les péchés. Ou alors ce que le tawhid efface comme péché. On peut traduire de deux façons. Parce que ma yukaffiru, ça peut être un masdar. Ça peut être l'équivalent du mot takfir. Ou alors ça peut être walladhi yukaffiru. Ça c'est pour ceux qui comprennent l'arabe. C'est-à-dire wa ma yukaffiru min adh-dhunub, ça peut être ou donc ça, on peut traduire en français par soit le fait que le tawhid efface les péchés ou ce que le tawhid efface comme péché. Bon, ça fait pas une grande différence. Donc il a cité le verset qui dit Ceux qui ont cru et qui n'ont pas habillé leur foi avec de l'injustice, ceux-là ont la sécurité et ceux-là sont les bien guidés. Donc il dit Cheikh Al-Fawzan, Munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid. Pourquoi il a mis ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, le chapitre comme quoi le Tawhid efface les péchés. Lamma bayyana fil bab al-awwal wujub al-tawhid wa ma'nahu, bayyana fi hadha al-bab fadl al-tawhid wa atharahu al-hamida wa nata'ijahu al-jamila allati minha takfiru adh-dhunub li ajli al-hath 'alayhi wa at-targhib fi. C'est-à-dire que une fois qu'il a montré dans le premier chapitre qu'est-ce que c'est que le Tawhid, il a voulu montrer quels sont les beaux résultats et les bénéfices du Tawhid pour eux, motiver les gens et attirer les gens au Tawhid. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc ensuite, il parle du verset, il dit « Amanu » quand il dit « Alladina amanu » يعني « صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم ورأس ذلك التوحيد » Regardez comment Cheikh Al-Fawzan il explique le terme « Amanu » qui est traduit généralement par « croire ».« Alladina amanu » c'est-à-dire « ceux qui ont cru ». Mais on a vu nous que dans les cours précédents, en juin je crois ou je ne sais plus quand, que le « imen » ou le verbe « amana » ou le mot « mu'min » qu'on traduit en français par croyant ou croyance ou croire, ça ne veut pas dire simplement croire, dans le sens je crois que cette chose elle est vraie. Ça ne suffit pas à une personne pour être un croyant tel que le croyant il est compris dans l'islam. Mais la croyance dans l'islam, c'est-à-dire l'iman, elle est composée d'actes, de paroles et de croyances. Et si la personne elle ne ramène pas ces trois ça, elle n'est pas mu'mine, ça veut dire elle n'est pas croyante. Mais elle reste dans sa mécréance. C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan, ici, il a dit « Amanu », ils ont cru, c'est-à-dire ils ont déclaré véridique la religion avec leur cœur et ils ont prononcé avec leur langue, c'est-à-dire les bonnes paroles, et ils ont agi avec leurs membres, c'est-à-dire ils ont mis en application la religion. Tout ça, c'est ça l'iman. Donc quand on lit dans le Coran « Al-Mu'minun », ça veut dire c'est ceux qui croient et qui appliquent la religion de façon complète. C'est ça les croyants dans l'islam. Et à la tête de ça, il y a le tawhid. وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ يَعْنَي يَخْلِطُوا تَوْحِيدَهُمْ. Quand il dit dans le Coran, ils n'ont pas habillé leur foi, c'est-à-dire ils n'ont pas mélangé leur tawhid, بِذُلْمْ يَعْنَي بِشِرْكِ. Par de l'injustice, c'est-à-dire par du shirk. Et vous verrez après que, je ne sais pas s'il va le citer ici, que ce tafsir, Cheikh Al-Fawzan, il n'a pas tiré de sa tête. C'est-à-dire quand Allah il a dit qu'ils n'ont pas habillé leur foi d'injustice, ça veut dire qu'ils n'ont pas mélangé leur tawhid, leur monothéisme, avec du shirk. Donc, c'est-à-dire l'injustice, dans la langue arabe, c'est le fait de mettre une chose là où elle ne doit pas être. Donc le shirk, Allah il a nommé dhulm, injustice. Pourquoi? Parce que c'est mettre l'adoration là où elle ne doit pas être mise. C'est-à-dire, c'est vouer l'adoration à autre qu'Allah. Ou alors l'avouer à Allah et à autre qu'Allah. Donc, c'est la mettre là où elle ne doit pas être. Parce que l'adoration, c'est le droit d'Allah seul. Elle doit être vouée à Allah seul. Donc, celui qui l'avoue à autre qu'Allah, il a transgressé le droit d'Allah, donc il a commis de l'injustice, du dhulm. Parce que le dhulm, ça veut dire de ne pas remplir les droits. Donc, le shirk, c'est de l'injustice. Al-amnu tuma'ninatu nafsi wa zawalu al-khawf. Donc il dit, quand il dit ici Allah dans le Coran, c'est eux qui auront Al-Amn. Al-Amn, c'est-à-dire on traduit en français par la sécurité. Il a dit, c'est le repos de l'âme et le fait de ne plus avoir peur. Muhtadun, et ils seront donc bien guidés. Le mot Muhtadun est Muwaffaqun al-Sayri al-Sirati al-Mustaqim, Thabitun alayh. C'est-à-dire qu'Allah il va leur faciliter la voie sur le chemin droit et les raffermir sur ce chemin droit. Donc quand on reprend le verset, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Il veut dire ceux qui ont cru, c'est-à-dire les vrais croyants, qui n'ont pas mélangé leur tawhid avec du polythéisme, ceux-là, ils ont le repos de l'âme et ils n'ont pas peur, c'est-à-dire ils ressentent pas de peur. Les ulama, ils disent, c'est-à-dire ils ont le repos ici-bas de leur âme et ils n'auront pas de peur dans l'au-delà. Wahum muhtadun, et ils sont bien guidés ici-bas et dans l'au-delà, c'est-à-dire ils sont affirmés sur le chemin droit. المعنى الإجمالي للآية دوك signification globale du verset يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. Donc il dit, ça c'est un des tafsirs qui existe à propos du verset, il dit Allah nous informe que ceux qui ont voué leur adoration exclusivement à Allah sans mélanger ce monothéisme avec du polythéisme, c'est ceux qui sont sereins et qui sont sauvés de la peur et des dangers au jour du jugement. Donc en fait la première partie du verset ça concerne le jour du jugement, quand Allah dit ils auront la sécurité, c'est-à-dire au jour du jugement, et c'est ceux qui sont bien guidés sur le droit chemin ici-bas. Donc c'est deux bénéfices du tawhid. C'est le fait d'être sauvé en fait du châtiment et de la peur au jour du jugement. Ça c'est ce qui concerne l'au-delà. Et fid dunya, c'est quoi le bénéfice? C'est d'être sur le droit chemin. Et en fait d'où il sort ce tafsir? Ici il n'a pas cité parce que ça c'est un livre très très résumé. Mais ici il a cité dans la marge, il a dit An Abdillah ibn Mas'ud radiallahu anhu qal لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أو لم تسأل أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أخرجه البخاري ومسلم. Donc en fait d'où il a tiré ce verset, ce tafsir, c'est dans le hadith rapporté par Ibn Mas'ud, qui est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Quand le verset qu'on a cité, il est descendu, les sahaba, ils ont dit, ô messager d'Allah, qui d'entre nous n'est pas injuste envers lui-même? C'est-à-dire qu'en fait, ici, Allah, il dit, ceux qui ont cru et qui n'ont pas déguisé et qui n'ont pas habillé leur foi d'injustice, ceux-là ont telle et telle chose. Donc les sahaba, ils avaient compris que l'injustice et tout, ça voulait dire... un peu de silence s'il vous plaît. Et ça voulait dire de ne pas commettre d'injustice. Et l'injustice, ça a un sens grand. Parce que l'injustice, en fait, ça peut être dans le droit d'Allah en commettant du shirk, ou alors en commettant aussi des péchés. Les péchés aussi, c'est de l'injustice. Ou alors dans les rapports entre êtres humains. Ça veut dire dans les rapports sociaux, on peut commettre aussi de l'injustice. Ou alors commettre de l'injustice envers soi-même en commettant ce qu'Allah il a interdit. Ça, c'est trois sortes d'injustice. Donc les sahabas, c'est normal, ils ont compris le sens global. Et ils se sont dit, s'il n'y a que ceux qui ne commettent pas d'injustice qui ont ces récompenses, ben, on fait tous de l'injustice. Donc ils ont eu peur. Ça veut dire on n'aura pas ces récompenses. Et en fait, le prophète, il leur a montré, il leur a dit, ce n'est pas ce que vous avez compris. C'est-à-dire, al-dhulm ici, c'est le shirk. Le prophète, il leur a dit. Le mot dhulm ici, dans ce verset, ça veut dire le shirk. Donc ça veut dire celui qui n'a pas commis de shirk. Et ça donc il y a plus de gens qui ne commettent pas de shirk. Donc c'est quelque chose de... On comprend pourquoi Allah il a dit ça. Et il leur a dit, n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman? C'est-à-dire Allah il a cité Luqman dans Surat Luqman quand il a dit, ô mon fils, n'associe pas Allah car le polythéisme, c'est-à-dire shirk, est une grande injustice. Donc il a expliqué un verset par un autre verset. Donc ça montre aussi comment les sahaba y retournaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que parfois les sahaba, malgré leur langue arabe parfaite, ils pouvaient ne pas comprendre un verset. Pourquoi? Parce que l'arabe ne suffit pas pour comprendre le Coran, il faut la sunna avec. Et ça nous montre l'idiotie de ceux qui prétendent, et j'ai des noms en tête, de ceux qui disent que, pour comprendre le Coran, comment on fait, eh ben, ça suffit la langue arabe. C'est-à-dire on apprend bien l'arabe, on lit le Coran et ça suffit. Ça c'est faux. Parce que par exemple, si avec l'arabe, tu ne peux pas comprendre ce verset comme Allah il avait compris. Et en plus, c'est contradictoire au verset où Allah dit. Wa anzalna ilayka dhikra, nous avons révélé le rappel, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, pour que tu montres aux gens ce qui leur a été descendu. Donc c'est-à-dire que la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de montrer le Coran. Et que sans la sunna, c'est-à-dire la sunna au sens véridique de tel que le comprennent les salafs, c'est-à-dire la sunna, c'est tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, comme explication du Coran, comme ordre, comme tout, comme acte, comme approbation, comme qualité extérieure, comme comportement. Sans ça, on ne peut pas comprendre le Coran. Impossible. Parce que c'est deux révélations qui ont été faites ensemble, l'une pour expliquer l'autre. Et aussi le Coran, il est la Sunna, elle a la même position que le Coran dans ce qu'on appelle l'istidlal. C'est-à-dire que pour prouver un jugement dans la religion, c'est pas on regarde d'abord le Coran et si on trouve dans le Coran, on n'a pas besoin d'autre chose. On doit regarder le Coran et la Sunna ensemble. On peut pas faire autrement. Parce que le Coran, pourquoi c'est une preuve? C'est parce que c'est une révélation. Et en cela, le Coran il dépasse pas la Sunna, parce que la Sunna aussi c'est une révélation. Mais le Coran il dépasse la Sunna seulement dans le fait que c'est la parole d'Allah. Sur ce point-là, il dépasse la Sunna, il est au-dessus. Mais vis-à-vis du fait d'être une révélation, il est égal avec la Sunna. Les deux sont une révélation. Parce qu'Allah il dit "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Il ne parle pas de ses propres passions, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Donc il dit après. Donc en fait, c'est quoi la signification du verset, une fois qu'on a bien expliqué tout ça? C'est que ceux qui pratiquent le tawhid sans commettre de polythéisme, c'est-à-dire ni grand ni petit, ceux-là, ils ont droit à ces bénéfices qui sont la sécurité dans l'au-delà et la guidance ici-bas. Donc celui qui commet du polythéisme mineur après ça, est-ce que ça veut dire que lui, il n'a rien du tout? Non. Parce qu'on sait tous que al-shirkul asghar, le shirk mineur, il annule pas le tawhid. Simplement, il le diminue. Donc, en fonction de ce qu'il l'a diminué, diminuera la sécurité et la guidance dont bénéficiera la personne. Pareil pour les péchés. C'est-à-dire que plus ton tawhid et ta aqida est entaché de péché et de dhulm, dans le sens général du texte, et non pas dans le sens du hadith, alors ta part de amn et de ihtida, c'est-à-dire de sécurité et de guider, elle va diminuer en fonction de l'injustice que tu as commis. Mais la grande injustice qui est ash-shirkul akbar, celle-là si tu la commets, tu n'as ni amn ni ihtida, c'est-à-dire ni sécurité ni guider, parce que ça annule l'islam et ça annule la foi. مناسبة الآية للباب أنها دلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. Donc pourquoi il a mis ce verset dans ce chapitre? C'est parce qu'il montre le mérite du tawhid et que le tawhid efface les péchés. ما يستفاد من الآية فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة. Donc au profit de ce verset, le mérite du tawhid et ses fruits ici-bas et dans l'au-delà. Donc qui sont ici-bas, c'est le fait d'être bien guidé et dans l'au-delà, le fait d'échapper au châtiment et à la peur. ثانيا أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر أو منقص له إن كان أصغر. Donc ça c'est ce que j'expliquais juste avant, que le shirk, le polythéisme, c'est une injustice qui annule la foi en Allah si c'est du grand shirk et qui le diminue seulement si c'est du shirk mineur. ثالثا أن الشرك لا يغفر. Troisièmement, c'est que le polythéisme n'est pas pardonné. Et ça, c'est plus clair dans d'autres versets qui viendront plus tard. Donc, quatrièmement, c'est que le shirk entraîne la peur ici-bas et dans l'au-delà. Parce que si le tawhid entraîne la sécurité dans l'au-delà et la guidance ici-bas, donc ça veut dire que le shirk, il entraîne l'inverse. C'est ce qu'il a retiré chez Al-Fawzan ici. C'est que le shirk, il entraîne l'égarement ici-bas et la peur et le châtiment dans l'au-delà.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
Donc ça c'est un hadith qui est dans صحيح البخاري صحيح مسلم. Ubadah ibn Samit dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui témoigne qu'il n'y a de dignité et digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager, et que Isa, c'est-à-dire Jésus, est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a jetée en Maryam, c'est-à-dire Marie, et un esprit venant de lui, et que le paradis est une vérité, et que l'enfer est une vérité, Allah le fera entrer au paradis, quels que soient ses actes. Ala ma kana min al-amal. Donc il dit, pour commencer,
Ubadah ibn Samit, donc il explique qui c'est ce sahabi. هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أحد النقباء بدري مشهور توفي سنة 34 وله 72 سنة. Donc c'est un sahabi ansari, c'est-à-dire de Médine, comme Mu'adh ibn Jabal, qui a assisté à la bataille de Badr et qui est mort en l'an 34 à l'âge de 72 ans. Shahida an la ilaha illallah. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand le prophète il dit celui qui témoigne شهد أن لا إله إلا الله يعني تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. Regardez comment Cheikh Al-Fawzan il explique ce que ça veut dire l'attestation la ilaha illallah. Il dit c'est le dire en connaissant sa signification et en agissant selon ce qu'elle implique intérieurement et extérieurement. C'est ça que ça veut dire shahida. Shahida, ce n'est pas comme qala. Qala, ça veut dire. Shahida, ça veut dire témoigner. Et ash-shahada, le témoignage, ce n'est pas comme le simple fait de dire. Le témoignage, c'est comme quand quelqu'un, par exemple, il témoigne dans un jugement auprès du juge, comme quoi un tel, il a volé la voiture d'un tel. Et lorsque le juge, il lui montre une bande de gens parmi lesquels il y a le coupable, lui, il est témoin de l'affaire et il lui dit « Tu reconnais le coupable là-dedans ?» Il dit « Non. » Est-ce que son témoignage, il a accepté ? Alors qu'il dit connaître le coupable. Est-ce que son témoignage, il a accepté ? Hein ? Ben non, il n'est pas accepté. Il dit connaître le coupable. « J'ai vu un tel, fils d'un tel, qui ressemble à ça et ça, voler la voiture qui est comme ci et comme ça, de un tel, fils d'un tel, qui ressemble à ça et ça. » Il témoigne. C'est ça le témoignage, normalement. C'est pour comprendre qu'est-ce que c'est al-shahada. C'est pas juste dire la ilaha illallah comme ça. Il vient auprès du juge et quand on lui montre 10 suspects, il est incapable de reconnaître le coupable. Ça veut dire qu'il le connaît le coupable ou il le connaît pas. Il le connaît pas. Donc est-ce que son témoignage shahada il est accepté? Il n'est pas accepté. Ou alors on lui montre 10 voitures et on lui dit tu reconnais celle qui a été volée et il la reconnaît pas. Donc ça veut dire que dans son témoignage il a menti ou il a pas menti. Ou alors il est complet ou il est incomplet. Il est incomplet, donc il n'est pas accepté. Ben, la ilaha illallah, al-shahada, c'est pareil. Si tu l'as dit comme ça, sans savoir ce que ça veut dire, et quand on dit savoir ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que tu dois forcément dire, Bashir Uthaymin, il a dit à telle page dans tel livre, la ma'bouda bihaqin illallah. Non, ça veut dire que, ne serait-ce que par tes mots, tu sais expliquer le sens global de la ilaha illallah. C'est-à-dire que Allah, c'est lui le créateur, qui est au-dessus du ciel, et qu'on doit l'adorer, et qu'on ne doit pas adorer autre que lui. C'est ça la signification globale de la ilaha illallah. Si une personne, elle ne comprend pas cette signification globale, au point que si tu lui demandes, est-ce qu'on a le droit d'associer à Allah, ou d'adorer autre qu'Allah, elle dit oui, alors son la ilaha illallah, ça veut dire qu'elle ne le connaît pas. Et il est annulé. Et son tawhid, il est annulé. Et ça veut dire aussi qu'il n'est pas musulman. Et ça correspond à ce qu'il dit le ulama quand ils disent, shurut la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, et parmi lesquels il cite l'ilm. Ça vous connaissez tous, les conditions de la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il dit la première, l'ilm, c'est-à-dire la science, connaître la signification globale de la ilaha illallah. Donc il dit, c'est celui qui dit cette parole, la ilaha illallah, et celui qui dit cette parole en connaissant ce qu'elle veut dire et en croyant son sens. D'où, pourquoi le Cheikh Al-Fawzan ici, il dit ensuite, et qui pratique ce qu'elle implique intérieurement, extérieurement. D'où s'est tiré ça du mot shahida. C'est qu'on a dit shahida, ça prouve que la personne, elle sait ce que ça veut dire la ilaha illallah. Et qu'elle y croit. Avec yaqin, avec certitude. À partir de là, si son cœur, il est dedans, il y a la science et la certitude de la ilaha illallah, est-ce qu'il est possible qu'elle ait ça dans son cœur et que son corps, il n'y a rien qui agisse? Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Inna fil jasadi mudghatan, dans le corps il y a un morceau de chair. Idha salahat salaha al-jasadu kullu, quand il est bon tout le corps est bon. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu, et quand il est mauvais tout le corps est mauvais. Ala wa hiya al-qalb, et en effet c'est le cœur. Donc ça veut dire quand le cœur il est bon, les membres seront bons, c'est-à-dire les membres ils seront poussés par le cœur, parce que la base de tout c'est le cœur. Ils seront poussés aux bonnes actions. Et si dans le cœur, il y a de la mécréance ou une mauvaise croyance, ça va se voir à l'extérieur. Donc une personne qui yashhad, ça veut dire, il témoigne, la ilaha illallah, ça veut dire, il sait ce que ça veut dire et il en est sûr, forcément, il va faire des actes d'adoration. Donc c'est pour ça qu'il dit, celui qui atteste, c'est, ça implique qu'il agisse. Donc c'est pour ça, en fait, bien comprendre les hadiths. Pas dire, bah, celui qui atteste, il va au paradis, donc c'est bon, moi j'ai attesté, ça y est, je fais rien. C'est faux ça. Et en plus, ça contredirait tous les versets, tous les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui ne prie pas, il va lui arriver telle et telle chose. Celui qui ne paye pas sa zakat, il va lui arriver telle et telle chose. Donc il faut comprendre ce hadith et les hadiths qui sont dans ce sens avec les autres hadiths qui montrent le châtiment de celui qui n'accomplit pas les ordres d'Allah et les actes obligatoires ou qui commet les interdits. Donc ensuite il dit la ilaha illallah yani la ma'bouda bihaqim illallah, donc ça c'est clair, wahdahu halun mu'akkadun lil ithbat. Quand il dit wahdahu la sharika la, wahdahu c'est pour insister illallah, et la sharika la c'est pour insister la ilaha, donc ça réinsiste l'affirmation et la négation, seul sans associé. Wa anna muhammadan ay shahid anna muhammadan abduhu ay mamlukuhu wa abiduhu. Donc quand il dit que Mohammed est son serviteur, Abduhu, c'est-à-dire c'est une Allah le possède, c'est quelque chose qui appartient à Allah. Wa abiduhu, et il est serviteur d'Allah. Donc à ce niveau, sur ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est égal à tous les êtres humains. Il n'a pas un rang supérieur au niveau du fait d'être une créature. C'est-à-dire au niveau d'être une créature, à propos du fait d'être une créature d'Allah, le prophète il est comme un autre, il est une créature d'Allah. C'est dans d'autres choses qu'il se distingue du reste de la création, c'est-à-dire par la prophétie. Mais au niveau de la création, il est comme le reste des êtres humains, c'est une créature d'Allah. Wa rasuluhu ay mursaluhu bi shari'atihi. C'est-à-dire, donc quand on dit rasuluhu, c'est celui qu'Allah il a envoyé avec sa loi. Donc regardez, quand on témoigne, anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Je témoigne que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Quand on fait ça, on atteste que le prophète c'est un être humain, c'est-à-dire entre guillemets un être humain simple, qui est une créature d'Allah. Donc ça implique qu'il est créé et donc il n'a pas le droit à l'adoration. Et en même temps, donc on n'a pas exagéré en lui comme ils ont fait les chrétiens avec Isa, en disant que c'était le fils d'Allah et en l'adorant. Et en même temps, on atteste qu'il est Rasuluhu, c'est-à-dire son messager. Donc, en même temps qu'on est attesté du fait qu'il est un être humain au même rang que les autres, au point de vue de la création, on atteste en même temps qu'il a une distinction vis-à-vis des autres êtres humains. C'est quoi ? C'est Ar-Risala, c'est-à-dire qu'il a été envoyé par un message. Et que donc, il est dans sa vie conforme à ce que Allah veut. Et qu'il a été envoyé et qu'il est le dernier des prophètes. Donc, d'un côté, on n'exagère pas vis-à-vis du prophète et on ne l'adore pas et on ne dit pas qu'il est le fils d'Allah ou quoi que ce soit, et de l'autre côté on ne diminue pas de son rang, on atteste qu'il est le messager d'Allah, contrairement à ce qu'ils ont fait par exemple les Yahoud, c'est-à-dire les fils d'Israël avec Isa. Donc par exemple, ça c'est un bon exemple, Isa, il y a ceux qui ont exagéré et qui l'ont mis au point d'être le fils d'Allah et ils l'adorent ou ils disent que Allah il est Père, Fils et Saint-Esprit, et donc un des trois est Isa. Donc ils ont exagéré, ça c'est les chrétiens. Et une autre partie qui sont les juifs, eux ils ont exagéré mais dans le négatif, c'est-à-dire ils ont dit que c'était un fils de prostituée, un menteur, etc., un faux prophète, etc., etc. Donc ça montre l'égarement qui peut arriver à partir au sujet d'un prophète, l'exagération dans les deux sens. Et quand on dit Abdullah wa Rasuluhu, en deux mots, on a évité les deux exagérations. Parce qu'en disant Abdullah, ça montre que le prophète, on croit qu'il est une créature. Il n'a pas droit à l'adoration et il n'a aucune part de la divinité. Contrairement à ce que fait dans cette communauté, beaucoup de soufis par exemple. Qui disent par exemple dans leur poème que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît ce qu'il a écrit dans Lawh al-Mahfouz. C'est-à-dire le prophète il connaît le passé et l'avenir. Ou alors que le prophète, si tu l'appelles, il te répond, il te guide. Ou alors que le prophète, tout a été créé pour lui. Ou alors comme ils disent là-bas, Al-Fatihu lima urliq, après la prière. C'est-à-dire c'est celui qui ouvre ce qui a été fermé. Donc tout ça, c'est des exagérations qu'annule notre parole, abduhu. Quand on dit abduhu, ça annule tout ça. Et de l'autre côté, on dit rasuluhu. Et rasuluhu, ça implique qu'on croit à ce dont il nous a informé et qu'on se conditionne par ce qu'il nous a dit et ce qu'il nous a ordonné. Contrairement à ce que font certains gens de cette communauté encore. Donc dans la communauté, on trouve les deux extrêmes. Comme les gens de l'aqlaniyin qui rejettent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de leur raison. Ou alors, en général, ahlul bid'a' qui ramènent dans la religion ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit. Donc là, eux, ils ont un manque au niveau de la parole rasuluhu, son messager. Parce qu'ils n'ont pas cru à au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. S'ils y avaient cru comme il se doit, ils n'auraient pas ajouté dans la religion d'Allah. Donc regardez comment, subhanallah, rien que dans la salat qu'on dit à la fin de tashahud, wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu, regardez toutes les significations que ça comprend. Donc ensuite, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, donc il dit, khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara, annahu Allah, aw ibnullah, aw thalithu thalatha. Donc quand on dit j'atteste que Isa est la créature d'Allah, le serviteur d'Allah, donc contrairement aux chrétiens qui disent que Isa il est Allah, ou il est le fils d'Allah, ou il est le troisième de trois. Wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qawluhu kun. Quand on dit Isa c'est la parole d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'Allah il a créé Isa, donc il faut lire dans Ibn Kathir la parole des salafs. C'est parce qu'Allah il a dit à propos d'Isa, إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم. Donc c'est-à-dire l'exemple de Isa auprès d'Allah est comme l'exemple de Adam. خلقه من تراب, c'est-à-dire Adam il l'a créé de تراب, c'est-à-dire de poussière, de terre. ثم قال له كن, ensuite il lui a dit soit, فيكون, et il est. Donc c'est pour ça qu'on dit que Isa il est la parole d'Allah, parce qu'Allah il a dit كن et Isa il a été sans qu'il ait été confectionné à partir du rapport entre un homme et une femme. Mais simplement comme ça par la parole d'Allah, Kun. Alors que le reste des êtres humains, c'est une autre cause qui est faite pour qu'ils soient créés. C'est le rapport entre l'homme et la femme. Alors que pour Isa, c'est la simple parole d'Allah, Kun, qui a fait qu'il ait été créé. C'est pour ça qu'on dit Isa, il est la parole d'Allah jetée en Maryam. Al-Qaha ila Maryam. أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل. Donc quand Allah il a dit kun, il a créé l'esprit d'Isa et il a envoyé Jibril souffler cet esprit dans le ventre de Maryam. C'est ce qu'il explique ici. Donc وروح est un esprit, أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. Donc وروح منه est un esprit venant d'Allah. C'est-à-dire que Isa, c'est un esprit parmi les esprits, c'est-à-dire l'arwah qu'Allah a créé. Minhu ay minhu khalqan wa ijadan ka qawlihi ta'ala wa sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu. Donc quand on dit un esprit venant de lui, il ne faut pas comprendre que Isa fait partie de l'essence d'Allah ou qu'il est une partie d'Allah. Parce que minhu, ça veut dire de lui, un esprit de lui. Et Allah dans le Coran, il dit par exemple, c'est lui qui vous a soumis les cieux et la terre, c'est lui qui a soumis les cieux et la terre, le tout, minhu, jami'an, minhu, le tout de lui. C'est-à-dire le tout venant de lui. De lui dans quel sens? C'est-à-dire que c'est Allah qui a créé et qui a fait exister les cieux et la terre. Et on sait bien que les cieux et la terre ne sont pas une partie d'Allah. Donc si ça c'est vrai pour les cieux et la terre, c'est le même mot qui est employé pour Isa. Donc pas s'imaginer quand on dit Isa c'est un esprit venant d'Allah, qu'il fait partie d'Allah, etc. Ça fait plus d'une heure là. On va finir juste ce hadith. Wal jannata haqqun wal nara haqq. Ay shahida anna al jannata wal nara allatayni akhbara Allah anhuma fi kitabihi thabitatani la shakka fihima. Donc quand il dit et que le paradis et l'enfer sont une vérité, c'est-à-dire que la personne elle témoigne que l'enfer et le paradis dont Allah nous a informés sont réels, sans aucun doute. Et ils sont réels maintenant. Parce qu'Allah il a dit par exemple à propos de l'enfer, « U'iddat lil kafirin ». Elle a été préparée pour les mécréants, c'est-à-dire qu'elle existe maintenant. Et à propos du paradis, il dit « U'iddat lil muttaqin ». Elle a été préparée pour les Non, pour les muttaqin, les pieux. Et le prophète, dans le voyage nocturne, il a vu le paradis et l'enfer.
Adkhalahu Allahu al-Jannah, jawabu shartis sabiqi min qawlihi. C'est-à-dire, quand il dit Allah le fera entrer au paradis, donc c'est celui pour kiffer, celui qui fait tout ce qu'on a cité avant.
Ala ma kana min al-amal yahtamilu ma'nayayn. Al-awwal.
Donc quand il dit, donc là soyez attentifs, c'est important, quand il dit, quelle que soit son action, en arabe c'est ala ma kana min al-amal.
Cheikh dit, ça laisse supposer deux significations.
Al-awwal.
أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا مقصرا وله ذنوب لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة.
La première signification qu'on pourrait comprendre, c'est que Allah, de toute façon, il le fera entrer au paradis, même s'il a des grands péchés. Pourquoi? Parce que fait partie de la aqida d'Ahl Sunna qu'un muwahid, c'est-à-dire un musulman, il reste pas en enfer, s'il passe en enfer, parce que parmi les musulmans, il y en a qui rentrent directement au paradis, ça c'est les vrais croyants. Et ceux qui ont un manque dans leur foi, ils passent par l'enfer. Mais ils n'y sont pas éternellement, contrairement aux mécréants. Donc c'est celui qui a le tawhid, de toute façon, il va aller au paradis. Donc on pourrait comprendre ça. Celui qui dit tout ça, là, c'est-à-dire que c'est un vrai croyant, de toute façon, Allah, il va le faire rentrer au paradis. Mais ça veut dire, même si il devrait passer par l'enfer avant, sa fin, ça va être le paradis.
Ou alors, Athani, Atralahu Allah al-Jannata. وَتَكُونَ مَنْزِلَتُهُ فِيهَا عَلَى حَسْبِ عَمَلِهِ.
Ou alors on pourrait comprendre aussi qu'Allah le fera rentrer au paradis et que son degré au paradis sera selon ses actions. Donc la phrase du prophète, elle laisse supposer les deux significations.
Donc il dit المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منهما عاص دون الشرك.
Donc la signification du hadith, c'est que le prophète, pour nous montrer le mérite du tawhid, il a dit que, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prononce les deux attestations, en connaissant leur signification, et en agissant selon ce qu'elles impliquent, à l'extérieur et à l'intérieur de lui-même, et qui s'écarte de l'exagération et des manquements vis-à-vis des deux prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Isa, et qui donc, il atteste qu'ils sont des messagers, et qu'ils sont des adorateurs d'Allah, et qui attestent en même temps qu'ils n'ont rien des spécificités d'Allah, et qui est sûr du paradis et de l'enfer, alors celui-là, de toute façon, il finira au paradis. Même si proviennent de lui des péchés, tant que ces péchés n'atteignent pas le degré du polythéisme. C'est ce que ça veut dire le verset, en fait, le hadith.
Ma yustafadu min al-hadith, fadlu al-tawhid wa anna Allah yukaffiru bihi al-dhunub.
Donc, ce qu'on profite du hadith, le mérite du tawhid est qu'Allah, par ce tawhid, il efface les péchés.
Sa'atu fadli tawhid wa ihsani, sa'atu fadli Allah wa ihsani wa subhanahu wa ta'ala.
La grandeur de la grâce d'Allah et sa bienfaisance.
Wujubu tajannubi al-ifrati wa al-tafriti fi haqqi al-anbiya'i wa al-salihin.
Le fait qu'il est obligatoire de s'écarter de l'exagération ou des manquements dans le droit des prophètes et des gens pieux.
Fala najhadu fadlahum.
Donc, on ne renie pas leur grâce, c'est-à-dire leur mérite, wala narlu fihim, et on n'exagère pas à leur sujet.
Fanasrifu lahum shay'an min al-ibadah,
au point de leur vouer des actes d'adoration. C'est-à-dire, on n'exagère pas à leur sujet au point de tomber dans leur adoration.
Kama yaf'alu ba'd al-juhal wa al-dhullal,
comme le fait certains ignorants et certains égarés.
Rabi'an anna 'aqidat at-tawhid tukhalifu jami' al-milal al-kufriyyah min al-yahud wa an-nasara wa al-wathaniyyin wa ad-dahriyyin.
Quatrièmement donc, que la aqida du tawhid est en divergence avec toutes les aqidas mécréantes, parmi celles des juifs ou des chrétiens, ou des adorateurs de statues et des idoles, ou de ad-dahriyin, c'est-à-dire les athées qui ne croient pas au créateur. Cinquièmement, que les désobéissants parmi les monothéistes, c'est-à-dire les monothéistes musulmans, qui ont des grands péchés,
ou qui ont des manquements dans le fait de faire les obligations, ne restent pas éternellement en enfer. C'est-à-dire que, parmi la aqidah d'Ahl Sunnah wa Jama'a, celui qui se présente au jour du jugement, avec une foi réduite, parce qu'il a commis des grands péchés, ou alors il n'a pas commis des obligations, celui-là, il est entre deux choses. Soit Allah, il lui fait miséricorde et il le fait rentrer au paradis et il lui pardonne, ou soit il le fait passer en enfer pour le purifier. Donc on s'arrête là, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.